بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاعني إسلام نغمس الله عز وجل qui nous donne la possibilité de consacrer un peu de notre temps pour étudier ces noms sublimes, pour étudier Asma'ul Husna, les noms d'Allah Azza wa Jal, ainsi que ses attributs. Pour rappel, on avait vu jusqu'à maintenant les attributs, les noms et les attributs Ar-Rahman et Ar-Rahim, qu'Allah est clément et miséricordieux. Et la grande leçon qu'on peut retenir de l'étude de ces noms Rahman, Rahim, c'est que le croyant doit toujours avoir une pensée positive de son Seigneur. Toujours avoir confiance en Allah, réaliser qu'Allah l'aime, qu'Allah a pitié de lui, qu'Allah est toujours prêt à l'accepter et qu'Allah aime sa créature plus que la maman aime son bébé. Deuxième nom d'Allah, enfin deuxième groupe de noms qu'on avait ensuite étudié, Al-Latif, qu'Allah est bienveillant envers ses serviteurs. Et l'enseignement essentiel qu'on peut retenir et mettre en application de notre pensée, notre façon de connaître Allah Azza wa Jal, c'est qu'on réalise qu'on peut et qu'on doit avoir totalement confiance en Allah Azza wa Jal. Parce que c'est lui qui organise la création, c'est lui qui prédestine tous les événements et rien ne se passe sans son ordre et Allah Azza wa Jal agit avec chaque créature en fonction de, bien sûr, comment la créature connaît son Seigneur, mais en fonction de sa situation. Et par rapport à sa situation, Allah va envoyer des épreuves ou des bienfaits. Et quand il y a des épreuves, le croyant se retourne vers Allah et quand il y a des bienfaits, il se retourne également vers Allah. Et de cette façon, en étudiant ce nom d'Allah Azza wa Jal, cela renforce notre iman bil qada'i wal qadr, la foi sur le destin. Et on a commencé ensuite à étudier Al-Azim, qu'Allah est le très grand, Allah est le sublime. On avait dit qu'on n'a pas vraiment d'équivalent français en termes de traduction de Al-Azim, que Allah est Azim, donc on va traduire par le très grand, le sublime, l'omnipotent, celui qui est capable de tout, celui à qui revient toute force et puissance. Et donc, l'objectif essentiel de l'étude de ce nom, Al-Azim, c'est de réaliser qu'on a besoin de se soumettre à lui totalement, parce que l'étude de ce nom nous amène normalement vers les deux objectifs, vers les deux étapes plutôt, qui résument l'adoration, le lien d'adoration entre le serviteur et son créateur, c'est l'accomplissement des bonnes actions. Et le croyant trouve la motivation pour accomplir les bonnes actions quand il réalise la grandeur de celui devant qui il se prosterne. Quand on voit notre ami Salih en train de lever ses mains pour faire dua, on va dire que lorsque le mu'min a réalisé la grandeur d'Allah, mais lorsqu'il lève ses mains, il sait qu'il s'adresse à Al-Azim, celui qui est sublime, celui qui est fort, celui qui est capable de tout. Et il y aura plus d'intensité dans les du'as. Celui qui ne connaît rien de son Seigneur, qui ne connaît rien de la qudra, de la force, de la puissance de son Seigneur, mais ses du'as resteront des récitations de ce que nous connaissons par cœur comme invocation. Mais celui qui connaît cette qualité d'Allah Azza wa Jal, ben, quand il fait du'a, il sait qu'il peut compter sur Allah Azza wa Jal, d'autant plus s'il a appris qu'Allah est Rahman, Rahim et qu'Allah est Latif, ben, c'est à Allah qu'il doit demander l'ouverture pour toutes les situations et c'est à Allah qu'il doit demander protection contre toute chose de mal parce qu'il connaît que tout est prédestiné, tout est décidé par Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, l'étude des noms d'Allah renforce notre lien avec Allah Azza wa Jal, renforce nos prières, renforce la qualité de nos invocations, de nos du'as. Ça donne réellement un sens à nos actes d'adoration, chose qui nous manque beaucoup. Nous sommes très axés sur le rituel, sur la répétition, sur l'héritage souvent. qui doit être spirituel, mais on parle plutôt d'héritage culturel, sans vraiment réaliser quelle est l'ampleur du ibadah, quelles sont les qualités qu'on doit retrouver dans les actes d'adoration. Et c'est ce qui fait la différence entre nos adorations et l'adoration des sahaba. Et l'autre partie donc de l'adoration, c'est l'éloignement du haram. On a dit les deux parties du ibadah, de l'adoration, c'est l'accomplissement des bonnes œuvres et l'éloignement du haram. Et bien sûr, quand une personne a réalisé qu'Allah est grand, qu'Allah est sublime, qu'on connaît la grande, on essaie de connaître la grandeur d'Allah, on se dit qu'il est inimaginable de désobéir à Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on t'invite vers un péché ou que ton cœur penche vers un péché, réalise la grandeur d'Allah, réalise la puissance de ton Seigneur, réalise le nombre de créatures qui nous dépassent en taille bien sûr, mais en spiritualité sans le moindre doute, comme les malaïka, et qui se soumettent à Allah sabahan wa masa, du matin jusqu'au soir, depuis leur création jusqu'à la fin des temps. Qui suis-je, moi, pour oser défier Allah Azza wa Jal? Parce que lorsqu'une personne désobéit Allah Azza wa Jal, d'une certaine façon, la personne ignore qui est Allah. Là aussi, il y a différents degrés de désobéissance. Soit la personne, la désobéissance basique, c'est la personne désobéit Allah parce qu'il fait preuve de rafla, d'insouciance. Ou alors la personne sait qu'Allah a rendu haram telle chose, mais il ne se préoccupe pas du regard d'Allah sur lui. D'une certaine façon, et je pèse mes mots, il défie Allah Azza wa Jal. D'une certaine façon, il défie, d'autant plus quand il s'agit de la personne qui fait des péchés ouvertement. Ça m'avait dit que chaque personne trouve le pardon auprès de son Seigneur, à l'exception de celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal ouvertement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de haya, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de gêne à accomplir les péchés. Et là, on est totalement opposé au principe de ihsan, aux qualités de ihsan, c'est que tu développes la pensée d'Allah Azza wa Jal qui devient permanente dans ton cœur. Que tu adores Allah comme si Allah est devant toi et tu es conscient qu'Allah te voit. Alors que celui qui désobéit Allah Azza wa Jal ouvertement, c'est que la personne ne se soucie guère du regard d'Allah. Il n'est pas dans la situation de l'ignorant. Il n'est pas dans la situation de l'ignorant. Il ne connaît pas parfaitement, mais il ne se préoccupe pas du regard d'Allah sur lui. Ça, c'est vraiment les pires des situations. Et pour éviter tous ces degrés de péché, d'une manière générale, même celui qu'il fait par ignorance ou par insouciance, ben c'est de connaître qu'Allah est Azim. À travers l'étude donc de ce nom, le mu'min, normalement, ne doit plus désobéir à Allah. Il ne conçoit même plus se mettre dans une situation où il désobéirait à Allah. Donc, comment est-ce qu'on peut développer notre connaissance sur ce nom d'Allah Azza wa Jal, le très grand, le sublime. Tout d'abord, réaliser que cette qualité d'Allah Azza wa Jal, Al-Azim, c'est des sifat al-kamal. Ce sont des qualités qui manifestent la perfection d'Allah Azza wa Jal. Fahuwa azimun fi dhatih, Allah est sublime dans sa personne. Kama yaliqu bihi azza wa jal, Allah est sublime dans ses noms, Allah est sublime dans ses attributs, Allah azza wa jal est sublime dans ce qu'il voit, dans ce qu'il regarde, dans ce qu'il entend, fi sam'ihi wa basarihi, fi qudratihi, dans sa puissance, wa quwwatihi, dans sa force, fi jamalihi, dans sa beauté, wa 'uluwihi wa ila ghayri dhalik, Allah azza wa jal est parfait dans tout ce qui émane de lui. C'est-à-dire le mu'min doit réaliser que lorsqu'il parle de son Seigneur, c'est le summum, c'est la perfection, ce qui est incomparable avec la création. Laïsa kamithlihi shay, rien n'est semblable à lui. Donc déjà, c'est avoir cette pensée d'Allah, parler de la grandeur d'Allah. Il est très important de parler de la grandeur d'Allah, idéalement nos enfants. Idéalement nos enfants, parce que pour nous déjà, c'est profitable spirituellement, mais ça va construire la spiritualité de nos enfants. Vous emmenez vos enfants près d'une montagne ou de la mer ou ainsi de suite et vous parlez à votre enfant, vous lui montrez, regarde la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah qui a créé cette mer, une telle quantité d'eau, et Allah seul sait quelle quantité d'eau il y a, et le nombre de créatures qu'il y a et ainsi de suite. Parlez de la grandeur d'Allah et de la perfection de sa création. Maintenant, comment vénérer Allah Azza wa Jal, c'est réaliser que personne ne mérite justement d'être considéré, d'être élevé, d'être vénéré. Personne ne mérite d'occuper une telle place dans notre cœur, dans notre conscience que notre Seigneur. Il doit être au-dessus de tout ce qui peut tout ce qui peut exister dans notre cœur. La présence d'Allah, la conscience de notre devoir envers Allah doit dépasser n'importe quelle autre catégorie de conscience ou de responsabilité. Ça doit dépasser notre responsabilité et notre devoir envers Allah Azza wa Jal doit avoir plus d'importance que notre devoir envers nos supérieurs hiérarchiques ou envers nos proches, envers les familles, ainsi de suite. Et donc, cela doit se traduire par, on va dire, 6 ou 7 catégories d'actions qu'on doit développer et qui est à la portée de tous. Premièrement, أَنْ يُعَظِّمُوهُ فِي قُلُوبِهِمْ. Le mu'min doit essayer, il doit s'efforcer de penser à la grandeur et la puissance d'Allah dans son cœur. En permanence, réaliser et garder, entretenir cette grandeur d'Allah dans le cœur. De telle façon que le cœur ne soit jamais insouciant. Et quelle est la meilleure façon pour entretenir cette flamme dans le cœur? C'est par le dhikrullah. Par la pensée d'Allah, Azza wa Jal. Une pensée d'Allah qu'on peut faire avec la langue, mais une pensée d'Allah qu'on peut faire également dans notre cœur. Et là, ça ne nécessite aucune condition. C'est une action qui ne sera visible de personne et qui aura du coup plus de valeur parce que personne n'est au courant, ne voit qu'on est en train de penser à Allah Azza wa Jal. Et principalement dans les situations de risque de fitna ou de péché, mais développer, accélérer le dhikrullah Azza wa Jal intérieurement. Deuxièmement, vénérer Allah Azza wa Jal par la langue, par le dhikrullah, par la lecture de la parole d'Allah Azza wa Jal qui est le Coran. On va aller un peu plus vite. Vénérer Allah Azza wa Jal bijawarihihim, par les membres, c'est-à-dire l'accomplissement des bonnes actions, que ce soit avec les mains, que ce soit, subhanallah, avec les pieds, avec les jambes, en se déplaçant, en allant vers des endroits qu'Allah aime, et par compréhension opposée, mafhoum mukhalafa, ne jamais utiliser ses membres dans la désobéissance. C'est de cette façon qu'on va faire naître la grandeur d'Allah dans notre cœur de façon innée, par le gestuel ou par les habitudes. Après, il y a bien sûr l'étude des textes, ça on avait parlé la dernière fois, l'étude des ayats, des versets du Coran et des hadiths qui parlent de la grandeur et de la puissance d'Allah, ça c'est par le biais du ilm. Mais le ilm, on ne peut pas l'avoir à chaque n'importe quand, à moins de pouvoir écouter sans arrêt des durus, ce serait l'idéal, mais dans notre quotidien, dans ce que on peut faire au quotidien, étant debout, assis, ou quelle que soit la situation, c'est de ressentir la grandeur d'Allah, penser à Allah de le cœur, penser à Allah par le dhikr et l'obéissance d'une façon générale. Tout ça, ça nous fera réaliser la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Également, wa badri al-juhdi fi ma'rifatihi, faire les efforts pour connaître Allah. Et là, on parle du ilm justement. Faire des efforts pour connaître Allah Azza wa Jal en étudiant les versets qui décrivent la grandeur d'Allah ainsi que les hadiths. Wa muhabbatihi. Essayer de développer l'amour pour Allah. Essayer de développer, de ressentir l'amour d'Allah. Wal inkisari lahu. Ressentir vraiment la soumission à lui. Comment on ressent la soumission à lui? Ça rejoint les bonnes actions et les péchés. Quand on accomplit une bonne action, on le fait avec une prise de conscience. Quand tu te prosternes, réalise que tu es en train de te soumettre à Allah. C'est pas juste que la prosternation fait partie de l'afsala. Oui, mais il y a une nuance entre faire le sejida parce que c'est obligatoire de la prière et donner un sens au sejida. Réaliser que quand je suis en train de me prosterner, je suis en train de me soumettre à Allah Azza wa Jal. Et quand je suis en train de dire non à un péché, je suis en train également de me soumettre à Allah Azza wa Jal. وَالْخُضُوعِ لِكِبْرِيَائِهِ. Se rabaisser devant sa grandeur et sa puissance. Se sentir écrasé par la puissance d'Allah. Et ça, idéalement, quand on fait les invocations, quand on fait les du'as, réalise comment tu es petit, comment tu es faible, comment tu es rien, et comment Allah est grand, comment Allah est puissant, et comment Allah est capable de tout. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah ordonne et cela se produit, cela s'exécute selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc le ressentir principalement dans les du'as. Wal khawfi minhu, bien sûr ressentir la crainte d'Allah. Et on s'était posé cette question-là la dernière fois. Est-ce qu'il nous arrive parfois de ressentir la crainte d'Allah? Et comment ressentir la crainte d'Allah? Passer en revue les versets qui décrivent les châtiments de l'au-delà, la description du Akhira, et ressentir et on essaie de cette façon de ressentir la crainte. La crainte d'Allah, c'était quelque chose d'inné chez les sahabas. Mais chez nous, on est tellement loin spirituellement. Pas matériel. Matériellement, nos mosquées sont plus solides que celles des sahabas. Mais intérieurement, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Donc, ressentir naturellement la crainte d'Allah, c'est pas quelque chose qui est justement naturel pour nous, chose qui était innée chez les sahabas. Ce que nous devons essayer de faire, c'est, à travers l'étude des descriptions de l'enfer et des situations de l'au-delà, ressentir la crainte et la peur d'être dans une situation où Allah sera mécontent de nous. Et réaliser également qu'on aura grandement besoin de lui en ce jour. Ça aussi, ça permet de ressentir la grandeur d'Allah Azza wa Jal. وَإِعْمَالِ اللِّسَانِ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ Et donner beaucoup de temps, essayer de faire les éloges d'Allah Azza wa Jal autant qu'on peut. Donc ça rejoint un petit peu le dhikr, bien sûr. وَقِيَامِ الْجَوَارِحِ بِشُكْرِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ Et consacrer son corps entièrement à l'adoration d'Allah et wa shukrihi à la reconnaissance. La reconnaissance, la gratitude par rapport à tout ce qu'il nous a accordé comme bienfait. Mais le faire de façon intelligente, avec prise de conscience à chaque fois qu'on est en train de créer une relation, on est en train de s'orienter vers Allah Azza wa Jal. Bien, ça paraît un peu philosophique tout ça, mais c'est technique, mais c'est des réactions intérieures qu'on doit fixer. C'est des réactions intérieures qu'on doit essayer de paramétrer pour avoir une pensée d'Allah Azza wa Jal qui deviendra, Inch'Allah, plus fréquente pour devenir par la suite, Inch'Allah, permanente. Ensuite, troisième action pour qu'on arrive à comprendre la grandeur d'Allah, au-delà des textes bien sûr, pour comprendre la grandeur d'Allah, réaliser tout simplement ce qui ne nécessite pas de connaissances religieuses approfondies. Il n'y a pas besoin d'ata'alim pour réaliser ce qu'on va. On va citer, réaliser an-nabiyadihi, que dans les mains d'Allah, c'est dans son qudra, il y a la royauté de la création souffla, la création de ce monde, mais également la royauté du monde supérieur, al-ulwi, c'est-à-dire le monde des cieux. Et là, on réalise que huwa alladhi khalaqahu wa yatasarrafu fihi bima sha'a. من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمة réaliser que tout ce qui existe dans le monde, dans le nôtre, dans le dunya, et dans le monde qui est au-dessus de nous, dans les cieux, et Allah seul sait la grandeur de la création des cieux, des créatures qui sont dans les cieux, mais tout ça, ça a été créé par Allah. Premièrement, خَلَقَ وَالتَّدَبُّرُ et que c'est Allah qui organise ces mondes. C'est Allah qui organise et qui gère ces mondes avec les règles qui sont spécifiques à chaque monde. Wa at-taqdir, c'est Allah qui prédestine chaque événement concernant ce dunya et le monde qui est au-dessus de nous. Et que c'est Allah qui décide, là on revient un petit peu vers le fonctionnement, les lois physiques, mais également les devoirs de chaque créature, c'est ce qu'on appelle la sharia, et c'est Allah qui régit quels sont les devoirs des créatures de ce monde et des créatures de tous les autres règnes, le règne animal, quelles que soient les créations d'Allah. C'est Allah qui décide quels sont les devoirs de chaque créature envers lui. Car dans un verset, Allah Azza wa Jal dit « Kullun qad alima salatahu wa tasbiha » Chaque créature d'Allah connaît, sens approximatif du verset, « Kullun qad alima salatahu wa tasbiha » Chaque créature connaît comment il doit se soumettre à Allah, comment il doit faire les louanges d'Allah et comment il fait l'adoration d'Allah d'une manière générale. Et réaliser également que concernant l'au-delà, là aussi c'est Allah qui décide. Dans ce dunya, toutes les décisions émanent d'Allah. Dans l'au-delà, encore plus, lorsqu'Allah dira le jour des comptes, l'imanil mulkul yawm, à qui appartient la royauté en ce jour. Et bien sûr, la réponse c'est que la royauté appartient uniquement à Allah Azza wa Jalla, l'Illahil Wahid al-Qahhar. Également le verset plus simple, on va dire, qu'on mémorise, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Donc réaliser que tout ce qui existe comme créature de ce monde ou les créatures dans les cieux, ben, tout a été créé par Allah. C'est Allah qui organise tous ces mondes et c'est Allah qui régit les règles et qui décide également des devoirs de ces créatures envers lui. Quatrième action à développer, ou quatrième piste de réflexion plutôt, pour réaliser, pour essayer de comprendre la grandeur d'Allah, c'est أن الخلق réaliser que أن الخلق que toute la création من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا بصفة من صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك. Que si toute l'humanité se réunissait pour essayer de comprendre la réalité d'une des qualités d'Allah Azza wa Jal, mais elle pourrait se réunir dans un temps indéfini, on ne pourrait jamais, jamais réaliser comment Allah est grand, comment Allah est azim, comment Allah est rahman, comment Allah est rahim, comment Allah est ala kulli shayin qadir. Donc réaliser que toutes les qualités qu'on essaie de comprendre concernant notre Seigneur, c'est loin, on est loin du compte. Et les quelques pistes qu'Allah Azza wa Jal nous a données, ce sont des pistes à travers les versets qui sont adapté à notre faiblesse, mais qu'en réalité personne ne peut réaliser et comprendre la grandeur et la force d'Allah Azza wa Jalla. Tout ça, ça nous permet d'essayer au moins de développer une relation intérieure avec Allah. Parce que celui qui ne connaît, qui n'a aucune conception de son Seigneur intérieurement, comment voulez-vous qu'il se soumet à lui extérieurement, c'est-à-dire à travers les actions? Si dans le cœur il n'y a pas la grandeur d'Allah, et si on ne s'efforce pas d'amener les pistes pour comprendre et réaliser la grandeur d'Allah, ben s'il n'y a pas ça dans le cœur, ben les actions ne feront que traduire malheureusement, que représenter cette absence qu'il y a dans le cœur. Même si l'apparence extérieure ce sont de bonnes actions, mais ces actions qui resteront malheureusement vides, sans qu'il y ait vraiment de profondeur, qu'Allah nous protège. Cinquième piste de réflexion pour réaliser la grandeur et la puissance d'Allah Azza wa Jal, réaliser que أن المخلوقات العظيمة, ça c'est un point beaucoup plus simple et ça on peut aller beaucoup plus vite, réaliser que tout ce qu'il y a comme créature, que ce soit l'infiniment petit ou ce qui est majestueux et grand, ben, tout est la création d'Allah Azza wa Jal, que ce soit dans le monde souterrain, et là on parle de l'infiniment petit, d'accord, si vous creusez à un mètre, deux mètres ou plus, on ne peut pas imaginer le nombre de créatures qu'on va retrouver. Ces asticots, ces insectes, ou ces, je sais pas qu'on appelle ça, ces larves ou autres qui sont enfouies à 15, 20, 30, 40, 50 mètres. Même si on va presque jusqu'aux les différentes couches de la terre, on trouvera toujours des créatures. Ben, d'où provient leur subsistance? Leur risque leur est accordé par Allah. Alors qu'ils ne montent pas à la surface de la terre ou autre chose, leur risque leur est accordé par Allah. Il n'y a pas une qui meurt de faim, sauf décision d'Allah Azza wa Jal. Et si on monte un peu la création qu'il y a, de ce que nous pouvons voir également du monde, les oiseaux et ainsi de suite, les insectes, bref, d'une manière générale. Et si on monte un peu plus, ça c'est des points qu'on maîtrise, on connaît plus ou moins. Si on monte un peu plus, enfin on ne peut pas monter, mais quand on réfléchit à la grandeur des anges, maintenant, on parlait tout à l'heure des créatures des cieux, lorsqu'on essaie de comprendre la grandeur de l'ange Jibril, de Mikaël, de Israfil, lorsqu'on essaie de comprendre la puissance et la force qu'Allah Azza wa Jal a donné par exemple à l'ange de la mort, qui est capable de reprendre des centaines de milliers, ou voire des millions d'âmes de différentes personnes en même temps, à travers différents continents, à la même seconde, et de la façon qu'Allah a prédestinée. Quand 1 million de personnes meurent en une seconde, il y a peut-être 100 000 personnes qui meurent avec la ilaha illallah, et peut-être les autres, ils meurent sans shahada, mais la façon que l'ange de la mort, c'est le même ange qui reprend leur ruh, ben il le prend de différentes façons en fonction du niveau de la personne. Quand on réalise la puissance de ces anges, ben du coup on comprend que c'est Allah qui leur a accordé cette puissance. Et là on remonte la réflexion, quelle est donc la puissance d'Allah Azza wa Jal. On parlait la dernière fois du verset Wafi anfusikum, et à travers notre création même, dans notre corps, dans le mode de fonctionnement, dans la biologie, dans la constitution même de l'être humain, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Et là, on peut compter sur les scientifiques pour voir. C'est eux qui voient, qui réalisent vraiment la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal. Il y a personne ne pourra mieux parler de la perfection du système respiratoire qu'un pneumologue. Personne ne pourra parler de la perfection de ce muscle essentiel qui est le cœur, qui bat sans arrêt, qu'on en soit conscient ou non, ce cœur qui bat, qui pompe du sang et qui l'envoie partout, et que s'il arrive que ce cœur ralentit ou il a un problème, ben c'est le corps tout entier qui souffre et qui risque d'avoir des paralysies ou des problèmes, qu'Allah nous protège. Ben, personne ne peut mieux parler de ce muscle qu'un cardiologue. Dire que ces sciences doivent nous permettre de réaliser la perfection de la création d'Allah, Azza wa Jal, et organisation et création dont nous ne sommes même pas conscients. Pas une dernière fois du stress, l'état de panique. Vous vous rappelez, il me dit que scientifiquement, il est prouvé que lorsqu'un homme est dans un état de stress, ben les vaisseaux sanguins se resserrent. Et pourquoi les vaisseaux sanguins se resserrent? En cas d'attaque, en cas de blessure, pour qu'il n'y ait pas de forte hémorragie. C'est extraordinaire ça. Ce sont des choses qui se produisent sans que nous en soyons conscients. Un truc un peu terre à terre, excusez-moi. Je regardais une émission culinaire, d'accord, parce qu'il faut essayer de cuisiner parfois. Et un truc bête, le cuisinier coupe un poireau en morceaux. Et il demande au caméraman de faire un gros plan, un zoom sur un morceau de poireau. C'est bête, excusez-moi, l'exemple est vraiment au niveau des poireaux même. De faire un gros plan sur une tranche de poireau et dire regardez la perfection et la symétrie des, je sais pas qu'on appelle ça, des nervures, ou vous voyez comment c'est parfait. Et puis il a pris l'exemple d'un chou rouge. Vous avez déjà mangé un chou rouge? Vous mangez au moins 5 fruits, légumes par jour, d'accord? Vous coupez un chou rouge et vous voyez la symétrie qu'il y a entre les deux parties. C'est comme si ça a été dessiné. Et c'est là qu'il nous déçoit. Il dit que j'arrive pas à comprendre comment est-ce que la nature a pu créer quelque chose de si parfait. C'est seulement il relevait un peu le niveau et réalisait comment est-ce qu'Allah a créé quelque chose de si parfait. Au lieu de dire la nature ou dame nature ou grand père ou grand mère nature, peu importe, comment est-ce qu'Allah a créé tout ça. Et puis il a dit qu'il y a même une exposition, je sais pas dans quel pays, une exposition où il y a essentiellement des photos de gros plans sur des légumes coupés en morceaux, en rondelles, pour qu'on voit les dessins. C'est comme une œuvre d'art. Et ça, c'est la création d'Allah. Je vous dis un truc un peu moins bête, mais il n'y a rien qui est bête, c'est méditer sur la création d'Allah. Je regardais dernièrement une toile d'araignée. Dans un endroit, il y avait une toile d'araignée qui était immense. Je m'en suis approché et je regarde les petits carrés. Il doit avoir un terme un peu plus scientifique pour ça. Tous les petits carrés qu'il y a, qui constituent la toile, c'est symétrique et c'est, comment on appelle ça? Chaque côté, chaque petit carré est parfaitement égal. Incroyable. Avant-hier, en sortant de l'école, quelqu'un de la famille, il me dit, voilà, il y a un nid qui était tombé. Je ne sais pas si c'est tombé, il n'y a pas trop d'arbres au centre-ville. Un nid d'oiseau. Vous prenez un nid d'oiseau, vous savez, les nids, pas les nids ronds, les nids où, vous voyez comment, ils puent dedans. Vous dites que, subhanallah, ils n'ont pas de mains, ils n'ont pas de pieds. Avec leur bec, ils vont chercher des brindilles. Ils font un travail comme si qu'ils brodent. Bref, tout ça, c'est ce qu'Allah a enseigné à ses créatures. Mais tout ça, subhanallah, si on ne voit pas la puissance d'Allah, quand est-ce qu'on va voir? D'accord? Donc, ça c'est une piste, et c'est une piste qui est accessible. Là encore, on voit les pistes qui ne sont pas dans les livres. Parce que ça, il faut du temps, il faut l'étude. Ce que on peut développer au quotidien. Voir la grandeur d'Allah à travers sa création. Quand vous passez sur la route du littoral, demande-toi que l'allée tombe pas sur la tête, bien sûr. Et regardez la nouvelle route, sans trop ralentir. Après, on y appelle Freedom, il roule doucement, il ralentit. Bref, vous voyez combien de milliards pour construire cette route. Et comment il est difficile d'aller tirer des roches à un tel moment, à un tel degré qu'on n'a plus de roches. Il fallait prendre des roches de Madagascar avec tous les débats et les échanges qui ont eu lieu sur ce thème-là. Bref, mais pour construire une route sur l'eau, le coût financier, le nombre d'hommes, de créatures qui doivent donc se rendre disponibles, je dirais presque H24, le nombre d'engins, de matériel, c'est magnifique de voir ça. Vous voyez des bateaux qui je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, ils prennent prennent la terre ou le sable, je ne sais pas quoi, ils filtrent, bref, c'est exceptionnel, c'est un chantier qui est magnifique. Mais Allah Azza wa Jal, combien de terres il a créé? Avec Kun Fayakun. L'homme pour essayer de poser un morceau de terre ferme, pour qu'on puisse soit marcher ou circuler,
des années, je ne sais pas quand est-ce que ça va être livré, des années, des milliards et quantité de mains et quantité de personnes qui vont peut-être mourir également sur cette route, pas sur cette route, je suis pessimiste, quantité de personnes qui parfois peuvent mourir dans le chantier parce que ça reste un chantier dangereux. Mais Allah Azza wa Jalla, quand il crée des continents, c'était kun fayakun, une terre qui est stable, une terre qui est parfaite, une terre qui peut donner la vie également, ça c'est le qudrat d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça c'est une piste de réflexion, c'est un point qui est connu, c'est at-tadabbur, réfléchir sur, méditer sur la création d'Allah Azza wa Jalla. Et maintenant, juste après la piste suivante, la piste numéro 6, on a combien de minutes là? Il nous reste 4 minutes. La 16e piste, c'est maintenant de réaliser le verset. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Dans ce verset de la sourate Az-Zumar, Allah Azza wa Jal décrit comment est-ce que le jour du Qiyama, pour la fin du monde, والأرض جميعا قبض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة, il fera de la terre entière une poignée. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal va se saisir de la terre en une poignée et que les cieux seront pliés? Allah va, c'est une image qu'on doit comprendre, on voit le ciel, les cieux, on voit, subhanallah, les cieux seront pliés. C'est-à-dire que l'immensité de la création, aussi immense, avec tout ce qu'elle contient, et comment est-ce que c'est une organisation parfaite, le jour de Qiyama, pour la fin du monde, Allah Azza wa Jal réduit à néant toute cette création en une fraction de seconde. La puissance d'Allah qui a tout créé, mais également la puissance d'Allah qui peut tout détruire en un instant. Après, je vais donner cet exemple dans l'étude des petits signes de Qiyama. Quand on veut détruire un bâtiment, pour ceux qui ont connu les anciens bâtiments, les états à Mecca, hein, Shobra, les Kauthar, Al-Madina, Bakka, Beiti, tu sais, ces bâtiments, Al-Attas, Al-Madina, ces anciens hôtels, et qui étaient présents peut-être lors de leur démolition. C'était l'époque où on était étudiants, et pour certains bâtiments, c'était extraordinaire de voir comment est-ce qu'ils faisaient descendre un bâtiment de 15, 20, 30 étages. Mais il faut une mobilisation de plusieurs jours pour en finir avec un bâtiment. C'est-à-dire autant pour construire, il faut du temps. Pour détruire, il faut également du temps. Regardez quand ils devaient casser Jabal Umar, la montagne, une des montagnes de Mecca, pour leur grand projet, c'était des travaux H24 sans arrêt, des mois et des mois, avec des équipes qui se relayaient pour détruire une montagne. Allah Azza wa Jalla de Qiyama, il va les attraper, il va même plier les cieux, qu'on comprend que tout sera réduit à néant en une fraction de seconde et avec une grande facilité. Et en ce jour, Allah Azza wa Jal demandera « An Allah, An al-Malik ». Allah dira « C'est moi Allah, c'est moi le maître » pour que la création d'Allah, toutes les créatures réalisent que c'est Allah qui donne vie, c'est Allah qui donne mort, qui donne la mort, c'est Allah qui crée et c'est Allah également qui détruit. Et là, à partir de ce verset, qu'on réalise que tout est dans les mains d'Allah, qu'Allah reprend tout, il peut tout anéantir en une fraction de seconde, là on doit pousser la réflexion pour réaliser qu'on a vraiment besoin de lui. On aura vraiment besoin d'Allah Azza wa Jal le jour où tout sera détruit et qu'il n'y aura que Allah Azza wa Jal, liman al-mulku al-yawm, lillahi al-wahid al-qahhar. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Il reste encore deux points. Je pense qu'on peut résumer ces deux points. Le huitième, c'est comment développer la grandeur d'Allah de notre cœur à travers la réflexion. C'est réaliser que anna nawasil ibad biyadi fala yatasarrafuna illa bimashiati wa la yataharrakun wa yaskununa illa biiradati. Réaliser que aucun homme ne peut prononcer une parole, ne peut avancer, ne peut agir sans l'ordre et l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Que le destin de chaque créature est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Et on irait même plus loin, au-delà des êtres humains. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Qu'il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre إِلَّا يَعْلَمُهَا, sans qu'Allah ne le connaisse. En ce moment, où on est en hiver dans certains pays, mais Il n'y a même pas besoin de vous demander à combien d'arbres sur cette terre. Il y a plus d'arbres que d'êtres humains. D'accord? Vous pensez à l'Amazonie, vous pensez à les grandes forêts, les petites forêts. Pensez même à votre jardin si vous avez la chance d'avoir un jardin. Mais une feuille qui tombe, il n'y a pas une feuille qui tombe. Illa ya'lamuha. Sans qu'Allah ne connaisse exactement. Et que cette feuille tombe avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ça paraît très puissant. Mais c'est un signe, c'est un des versets qu'Allah donne, qu'Allah révèle pour qu'on réalise sa puissance et sa connaissance. Et neuvième, c'est pas le dernier, mais neuvième piste de réflexion, réaliser que أن الأبصار تراه ولا تدركه. D'où le verset لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. C'est-à-dire que aucune créature ne peut voir réellement Allah Azza wa Jal. Contempler une partie de la lumière d'Allah Azza wa Jal, mais voir Allah Azza wa Jal totalement, c'est quelque chose qui est impossible, parce que Allah Azza wa Jal est au-dessus, vraiment au-dessus, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons même concevoir, parce que le cerveau humain ne peut réaliser une telle grandeur. Là, je pense que c'est bon. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et ce qu'il nous reste à voir, Inch'Allah, la prochaine fois, concernant... Là, on avait vu les pistes de réflexion au quotidien. Après, il y a bien sûr les versets du Coran. Et là, ça nécessite un effort dans le talab al-ilm, de la connaissance religieuse. Également les hadiths qui décrivent la grandeur d'Allah. Et si on a associé l'étude des versets, l'étude des hadiths et cette méditation permanente à travers ces 8 ou 9 pistes qu'on a essayé, au mieux d'expliquer, quel est le fa'ida? Al-fa'ida min al-imani bi sifati al-azama. Qu'est-ce que cela va nous apporter en 7 points? Quel est l'apport spirituel immense et exceptionnel pour une personne qui a réalisé, qui a compris la grandeur d'Allah Azza wa Jal? Ça, Inch'Allah, on va voir la prochaine fois en 7 points. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, que ces paroles pénètrent nos cœurs, que la grandeur d'Allah entre dans notre cœur et que nous soyons conscients en permanence du regard d'Allah sur nous et que de cette façon nous arrivons à nous soumettre totalement à lui. Tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.